Vous écoutez le podcast de Noria Research, La fabrique de la thèse. Épisode 6, enseigner pendant la thèse.
Salut, je viens de recevoir une super nouvelle, je vais donner des cours pour la première fois à la rentrée. Et bon, l'intitulé du cours est assez éloigné de ma thèse, mais quand même, je pense que c'est une super opportunité. Vous en pensez quoi, vous ?
Bien sûr que c'est une belle opportunité de transmettre sa recherche, mais ça pose aussi pas mal de questions. L'enseignement, c'est un aspect central de notre métier, dont on parle finalement assez peu. Ça vaut le coup donc de dédier tout un épisode à ce sujet.
Oui, car contrairement à l'enquête de terrain ou à l'écriture, il y a très peu de manuels pour se former en tant qu'enseignant du supérieur.
Avant d'entrer dans les questions pratiques liées à l'enseignement, parlons d'abord de l'état actuel de l'université en France. Attention, c'est pas drôle.
Face à la réduction des postes d'enseignants titulaires au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche, que je nommerai ESR pendant tout ce podcast, ce sont les vacataires qui représentent aujourd'hui les deux tiers des enseignants. Ils assurent plus de 5 millions d'heures de cours par an.
Ouais, les vacataires, c'est nous, et sûrement vous, majoritairement de jeunes chercheurs en cours de thèse ou qui ont terminé leur thèse, qui enseignent sur des contrats courts, précaires et souvent aux marges de la légalité.
Le recours généralisé aux vacataires illustre la crise qui traverse aujourd'hui l'université. Le manque de postes renforce à la fois la précarisation des jeunes chercheurs et l'invisibilisation de leur travail. Cela rend l'exercice de la thèse encore plus difficile. C'est de ça dont on va essayer de parler aujourd'hui.
Est-ce que vous tenez beaucoup à rester dans l'enseignement ?
Rester dans l'enseignement, mon Dieu, oui, madame.
Pourquoi ?
Parce que c'est une profession très considérée.
Si l'enseignement vous a pas complètement détruit.
Le bilan n'est donc pas hyper optimiste. Mais les jeunes chercheurs doivent bien naviguer dans ce milieu. Alors concrètement, comment on fait ? Comment savoir si l'enseignement est une bonne opportunité ?
Le premier conseil, je dirais que c'est de penser à l'équilibre entre l'enseignement et le reste des activités de la thèse. Maïna, doctorante en sociologie, nous donne un exemple de son parcours d'enseignement. On l'écoute.
Alors moi, la question de l'enseignement, elle s'est posée assez tardivement. En fait, j'ai commencé tout de suite par le terrain, qui était à l'étranger, donc la question de l'enseignement ne se posait pas. Et puis, j'avais la chance d'avoir un contrat doctoral qui ne m'obligeait pas à enseigner. Donc, c'est vraiment après le terrain, en rentrant en France, que j'ai commencé à donner des cours en tant que vacataire, parce que là, il s'agissait plutôt de trouver un équilibre entre l'écriture de la thèse et les cours. Et donc, les vacations, par rapport à un contrat d'attaché, donc d'attaché temporaire d'enseignement, prenaient moins de temps. Mais c'est vrai que pour se plonger vraiment dans l'écriture, c'est évidemment mieux de ne pas du tout avoir de cours, parce que c'est quand même très dur de trouver un équilibre. Mais voilà, je divisais un peu ma semaine en deux entre la préparation des cours et l'écriture de la thèse.
Ce que montre bien le témoignage de Maïna, c'est qu'il n'y a pas de bon modèle. Vos choix d'enseignement dépendent de votre situation contractuelle et financière, de vos perspectives professionnelles, de vos envies et des opportunités qui vont se présenter.
Ce qu'il faut garder en tête, c'est donc que c'est un choix avant tout personnel, mais qui ne doit pas ignorer les attentes de l'ESR.
Et c'est là que l'idée d'équilibre est importante. L'enseignement, c'est une activité nécessaire pour la carrière. Vous devez par exemple avoir réalisé un certain nombre d'heures d'enseignement pour être qualifié dans votre discipline et ainsi postuler à des postes de maître de conférence. Mais en même temps, trop enseigner, c'est un risque. Le risque de consacrer tout votre temps à cette activité nouvelle et difficile et d'en oublier votre terrain, votre thèse ou vos publications.
Il faut aussi garder en tête la question financière. Pour de jeunes chercheurs souvent précaires, les vacations peuvent représenter une première source de revenus bienvenue. Mais ces revenus ne sont pas stables. Ils sont souvent payés à la fin du semestre et restent très faibles par rapport au nombre d'heures consacrées. C'est ce dont nous parle Adrien, docteur en géographie.
Concernant l'enseignement, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment deux pendants au fait d'enseigner pendant la thèse. Et par ailleurs, bon, j'ai l'impression que ce sentiment il est partagé par pas mal de doctorants. Le premier, c'est que tout le temps que vous allez passer à préparer les cours, évidemment, c'est du temps que vous ne passez pas à travailler votre thèse. Et il faut vraiment avoir en tête qu'enseigner, c'est un... Bon, il y a les heures d'enseignement effectives, mais derrière ça, il y a un énorme travail de préparation. En ce qui concerne les financements, par ailleurs, alors certes, enseigner est une ressource de financement pour le doctorant, mais il faut savoir que le doctorant vacataire n'est payé qu'à la fin du semestre. Et si par ailleurs, il compte là-dessus pour vivre, il va falloir vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures pour pouvoir en tirer un revenu décent. Et dans ce cas-là, bah, il est certain que le travail de thèse pendant cette période d'enseignement sera mis en pause. Cela dit, c'est aussi un exercice qui est hyper ressourçant. Alors qu'on travaille pendant des années sur un seul sujet, enseigner, en fait, c'est s'intéresser à d'autres thématiques et à essayer de les retranscrire de manière pédagogique pour des étudiants. Et ça, vraiment, moi, ça m'avait fait beaucoup de bien. Et puis, alors qu'on est dans un effort qui a été long et où parfois on en vient à se demander pourquoi on s'est lancé là-dedans. Enseigner, c'est un peu revenir aux sources originelles, quoi. Et moi, je sais qu'à de nombreuses reprises, ça a contribué à vraiment rallumer la petite flamme et à me faire me souvenir de pourquoi je m'étais lancé là-dedans.
Adrien a raison de rappeler que l'enseignement peut être une expérience hyper riche. Et quand les conditions sont réunies, c'est une vraie opportunité de transmettre sa recherche, de la tester, de la rendre utile, et finalement d'en faire bénéficier les étudiants.
Bon, maintenant, il faut qu'on parle concret. Comment faire pour trouver des opportunités d'enseignement ?
En gros, vous pouvez enseigner dans le cadre de votre contrat doctoral, à travers des vacations, ou encore lors d'un contrat d'ATER.
Pour trouver ces offres, il y a plusieurs possibilités. Les mailing lists d'abord, en fonction de votre discipline de rattachement. C'est là que les offres sont diffusées. Mais aussi sur le site des universités. Et enfin sur le portail Galaxy pour les offres d'ATER. Il faut aussi préciser que le bouche à oreille joue un rôle important dans notre secteur. Beaucoup d'opportunités s'ouvrent par les contacts développés au fil de la thèse. N'hésitez pas à solliciter vos collègues. Nejati, doctorant en sciences politiques, nous partage ses conseils.
En tant que doctorant étranger, enseigner dans l'enseignement supérieur en France, c'était totalement nouveau pour moi au début. Pour comprendre le système, j'avoue que j'ai pas mal échangé avec mes directrices et des collègues plus expérimentés. J'ai eu ma première vacation grâce à ma directrice et puis j'en ai trouvé via des mailing lists, des contacts ou en écrivant directement au département des universités. Bah, c'est pour ça que je dirais qu'il faut d'abord bien connaître quand même l'équipe et l'établissement où on veut enseigner. Et pour les ATER, je passais par Galaxy, mais attention, tous les enseignants n'y sont pas, donc il faut aussi surveiller régulièrement les sites internet de ces établissements. La première fois que j'avais postulé pour une vacation, j'avais envoyé un CV professionnel classique et ma directrice m'a conseillé de faire un CV académique détaillé que j'entendais pour la première fois dans ma vie. Alors, il faut donc un CV académique détaillé. Et dans le CV, je précise surtout les titres, le contenu et les horaires des cours, et également le niveau et le nombre des étudiants. Bon, je dirais que la candidature pour les postes d'enseignement est assez long et compétitif. Il y a pas mal de refus et non-réponses, mais je pense que chaque candidature quand même permet d'améliorer le dossier.
Si vous obtenez l'offre en question, soyez bien vigilant aux modalités du contrat. N'hésitez pas à vous tourner vers les associations de doctorants par discipline ou les syndicats, afin de bien connaître les règles législatives en la matière.
Bon, et maintenant, parlons un peu pédagogie. Comment on organise ces cours ? Comment on donne envie aux étudiants ? C'est important, ça aussi, quand même.
Comme on le disait en début du podcast, il y a peu de ressources, et les jeunes enseignants sont souvent livrés à eux-mêmes. Mais comme la thèse, cela reste un exercice éminemment collectif, n'hésitez pas à demander conseil à vos collègues, aux titulaires ou aux doctorants plus expérimentés.
C'est d'ailleurs fréquent de demander des plans ou des notes de cours aux collègues, ou d'échanger avec les titulaires sur la coordination entre le TD et le cours magistral.
Notre dernier petit conseil sera de créer votre propre style d'enseignement. Comme pour la thèse, l'enseignement se fait dans un cadre avec des règles et des contraintes. Mais au sein de ce cadre, vous avez une grande liberté pour créer et pour transmettre à votre manière.
Vous venez d'écouter « Enseigner pendant la thèse », le 6e épisode du podcast « La fabrique de la thèse ». Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver l'ouvrage collectif « La fabrique de la thèse », guide collectif d'un exercice personnel, publié en 2024 aux éditions Cartala, dans toutes les bonnes librairies ou en ligne sur cairn.fr.